Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter la chute tragique de Napoléon. Tout le monde connaît l'empereur des Français, mais il y a une période qu'on connaît moins. C'est son exil à Sainte-Hélène. C'est sur cette île perdue au milieu de l'océan Atlantique qu'il a passé les 6 dernières années de sa vie, entre 1815 et 1821. C'est cette histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vous invite à découvrir avec moi en 2 épisodes. Napoléon, le petit tyran de Sainte-Hélène, épisode 1, Longwood House, morne quotidien. C'est le temps qu'il a fallu au Northumberland pour parcourir la distance qui sépare l'Angleterre de l'île de Sainte-Hélène. L'imposant trois-mâts de la Royal Navy longe la côte africaine pour rejoindre cette colonie britannique située en face de la Namibie. Napoléon se tient sur le pont du bateau. Il regarde ces falaises immenses et noires devant lui. Cette île, c'est une forteresse au milieu du néant. Autour de Napoléon, placé sous la surveillance de l'amiral Cockburn, le capitaine du bateau, il y a ce qu'il reste de sa cour. Une soixantaine de personnes l'a suivi depuis Paris après son abdication. Mais quand les Anglais ont décidé de l'envoyer en exil dans l'Atlantique Sud, il n'a pu garder qu'une dizaine de fidèles. Des généraux et leurs familles, et quelques domestiques qui l'auraient suivi au bout du monde. Napoléon n'a pas revu sa femme depuis son premier exil sur l'île d'Elbe en 1814. Marie-Louise d'Autriche s'est réfugiée dans son pays natal avec son fils, le prince de Rome. Pour Napoléon, c'est un crève-cœur de ne plus voir son fils. Malgré les austères falaises de Sainte-Hélène qui plongent dans la mer, il garde espoir. Cette captivité ne durera pas longtemps. Ben non, c'est bien normal, les Anglais vont changer d'avis. Napoléon était convaincu qu'en se rendant aux Anglais après son abdication forcée, il aurait une retraite dorée, soit aux États-Unis, soit à la cour, ou au pire, à la campagne. Il n'a pas encore compris que les Anglais le considèrent comme un tyran dangereux qu'il faut neutraliser en l'envoyant au bout du monde. Il refuse d'accepter que pour eux, il n'est plus l'empereur Napoléon, mais le général Bonaparte, un prisonnier. Le 17 octobre 1815, après plus de 2 mois de navigation, Napoléon pose le pied à Jamestown, la bourgade qui fait office de capitale. C'est aussi l'unique port de cette île hostile qui sert d'escale aux bateaux qui traversent l'Atlantique. Le climat est tropical. Les maisons de style colonial, en bois peint en blanc, ont un côté villégiature bourgeoise. On est très loin de son palais de Fontainebleau, le cœur de sa cour officielle, ou de la Malmaison, l'immense résidence de Joséphine où il a passé tant de temps à travailler depuis le directoire. L'exilé s'installe provisoirement chez la famille Balcombe, au pavillon des Briards, parce que sa maison n'est pas encore prête. Le père Balcombe travaille pour la Compagnie des Indes Orientales. Il s'occupe du ravitaillement des bateaux de la Royal Navy. Napoléon passe 2 mois dans cette maison où il lie une amitié improbable avec la fille de son hôte. Betsy Balcombe a 14 ans et lui 46, et il l'adore. Il a toujours été un coureur de jupons et sa cour jalouse trouve qu'il a une relation bien ambiguë avec cette petite Anglaise, mais elle ne peut pas rivaliser avec ses deux grands amours. La première femme qu'il a aimée, Joséphine de Beauharnais, sa femme idéale pourvue d'un gros caractère, est décédée 1 an et demi plus tôt. C'est elle qui l'a initiée à la sensualité. Malgré un mariage passionnel, Napoléon l'a répudiée parce qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Or, il devait fonder une dynastie. La seconde, Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, dont il adorait l'innocence, est la mère de son fils, mais elle ne l'a jamais aimé. Elle s'est mariée avec lui pour raison d'État. Pour passer le temps, Napoléon joue à Colin Maillard avec Betsy. Elle est la seule personne qui l'autorise à l'appeler Bonnie. Napoléon demande à son géographe, qui l'a accompagné sur l'île, la Skaze, de lui apprendre l'anglais pour pouvoir communiquer avec elle. Et Betsy se moque souvent de son accent qu'elle trouve le plus étonnant du monde. À peine 2 mois après son arrivée sur l'île, le 10 décembre 1815, Napoléon abandonne le pavillon des Briards pour rejoindre Longwood House. Sa maison est située sur l'un des plateaux au sommet de l'île. Si au bord de l'eau, c'est les tropiques, là-haut, c'est plutôt la Bretagne. Longwood House est une petite maison qui ne fait que 100 mètres carrés. Pour Napoléon, c'est ridicule à côté de Fontainebleau. Elle est de style colonial, ses murs sont peints en blanc, il y a des volets verts, des toits en pente. Elle forme un T au milieu d'un jardin entouré de guérites gardées par des soldats anglais. Napoléon peut en faire le tour en à peine 1 heure. C'est très loin de ses standards. C'est ici que va désormais résider la cour, enfin, ce qu'il en reste. Napoléon se réserve 3 pièces pour lui tout seul. Une chambre, un cabinet de travail et une salle de bain. Il instaure immédiatement le même protocole qu'au temps de sa splendeur. Il s'y raccroche parce que c'est la seule chose qui le fait se sentir encore empereur. S'il reçoit un invité, c'est le général Gourgaud qui doit l'annoncer avant que Napoléon ne le reçoive. Et lorsqu'il se couche, le valet n'a pas le droit de sortir de sa chambre si Napoléon ne lui en donne pas l'ordre. Et s'il oublie, le valet va rester debout toute la nuit à côté du lit. Napoléon se raccroche à ce protocole parce que c'est la seule façon pour lui de se sentir toujours empereur. Évidemment, Longwood, ce n'est pas Versailles. Il y a de la moquette au sol, des jolies tapisseries et quelques meubles précieux ramenés par Napoléon. Mais c'est une maison de petits bourgeois, pas un palais impérial. Et dans cette maison, il règne une terrible promiscuité. C'est un vrai huis clos. Un huis clos où la réalité du quotidien devient oppressante. Parce que la seule réalité de cet endroit, c'est l'ennui. Toutes les journées se ressemblent. Le matin, on se lève tôt. Sa Majesté reçoit dès 9h. Oui, il reçoit beaucoup de monde. Napoléon est une attraction pour les bateaux qui font escale à Longwood. Beaucoup d'officiers et de dames demandent à le voir. Et il accepte parce qu'il peut les séduire, révéler son histoire, faire découvrir son quotidien. Tous ses visiteurs pourront raconter en Angleterre combien celui que ses ennemis surnomment l'ogre corse est maltraité. Avec cette propagande officieuse, on finira par le faire revenir en Europe, c'est sûr. Dans l'après-midi, Napoléon fait souvent une promenade en calèche ou à cheval sous escorte anglaise. Les soldats disséminés dans les checkpoints autour de l'île communiquent sur la position du prisonnier en levant des drapeaux que l'on peut voir de loin. Si Napoléon tente de s'échapper, l'alerte sera vite donnée. Chaque jour, Napoléon décide de l'heure du dîner. Jamais la même que la veille pour rompre la monotonie. Il exige que les hommes soient en grande tenue et les femmes en robe du soir. Imaginez les soies et les galons qui moisissent dans la touffeur de Sainte-Hélène. Avant de les enfiler, il faut les repasser pour tuer les champignons. Quand la cour entre dans la salle à manger, elle est saisie par l'air rendu encore plus humide et collant par les nombreuses bougies allumées. Chaque courtisan est servi par un domestique. Non, pas les valets de Napoléon, mais des domestiques chinois fournis par le gouverneur de l'île ou des soldats anglais trop contents de jouer les voyeurs chez Napoléon. La table est bien garnie, mais tout le monde se plaint. Pourtant, il y a du poisson, de la viande, des légumes et des fruits. Le cuisinier Lepage, qui a suivi Napoléon sur l'île, fait de son mieux avec ce qu'il a sous la main. Le confiseur Pierron se décarcasse pour cuisiner des entremets jamais à la hauteur de son talent. Mais le pire, c'est le vin. Les crus de l'époque, comme le Chambertin, ne supportent pas les voyages en mer. Napoléon boit donc des vins médiocres. Mais comme on s'ennuie, on se venge sur le whisky. 10 bouteilles par jour. Enfin, ce sont les généraux qui boivent. Napoléon se contente la plupart du temps d'un verre de vin dilué dans de l'eau. Il expédie son dîner en 40 minutes et s'essuie les doigts sur ses habits. Il a toujours fait ça, geste qui dégoûte Madame Bertrand. C'est sans doute un peu pour ça qu'elle repousse continuellement ses avances. L'atmosphère du dîner est souvent sinistre. On s'égaye un peu plus quand on passe au salon. Albine de Montholon, la femme de l'un des généraux les plus fidèles de Napoléon, joue du piano, mais comme elle chante mal, on essaye de vite mettre fin au supplice. On joue aux cartes aussi, mais Napoléon déteste perdre, alors il triche. Mais ce que la cour préfère, c'est faire parler Napoléon, lui faire raconter encore et encore ses victoires. Dans ces moments, il est en transe. Lascaz joue le rôle de l'animateur et le relance. Napoléon adore ça. Il comprend très vite que le géographe est l'homme qu'il lui faut pour l'aider à écrire son autobiographie. Napoléon a décidé de dicter ses mémoires pour la postérité. Préparer sa légende, c'est la dernière chose qu'il lui reste à faire. Dans la journée, il fait venir Lascaz ou son fils dans son bureau et dicte sa vie et ses batailles à partir de notes qu'il a emmenées avec lui. Lascaz est déjà un auteur réputé. Il sait qu'avec Napoléon, il tient un sujet de livre exceptionnel. Il sait remanier les propos de l'empereur déchu pour les magnifier, quitte à enjoliver la réalité. Les dictées peuvent parfois durer plus de 9 heures. Napoléon est infatigable. Il déteste écrire lui-même, car il trouve que sa main est trop lente par rapport à son esprit. Mais parfois, il raye et annote les pages de son copiste avec sa petite écriture illisible. Même si le quotidien est bien réglé, des tensions apparaissent au sein de ce huis clos. Gaspard Gourgaud, l'un des officiers de Napoléon, transi d'amour pour son maître, se met à détester Lascaz. Il l'appelle l'extase quand il veut être cynique ou le jésuite quand il veut être méprisant. Il ne comprend pas ce que cet intellectuel fait à Longwood. Et puis, il a le sentiment de se faire voler l'amour de Napoléon. Gourgaud considère qu'il a toujours été le plus fidèle de tous à son maître. Mais l'affection qu'il attend, Napoléon la donne à Lascaz ou pire, à Albine de Montholon qu'il a prise pour maîtresse avec la complicité de son mari trop content de prêter sa femme à son empereur. Tous les courtisans rivalisent pour avoir les faveurs de Napoléon. Bien sûr, il l'adore, il l'admire, mais ils veulent autre chose aussi, être couché sur son testament. Napoléon a fui la France avec 200 millions de francs. Si les petites rivalités entre les courtisans alimentées par Napoléon occupent son quotidien, un nouveau venu sur l'île va bientôt prendre beaucoup de place dans sa vie. Le 16 avril 1816, Sir Hudson Lowe arrive à Sainte-Hélène où il prend son poste de gouverneur. Sa mission ? Surveiller le général Bonaparte. Comme il sait que Napoléon reçoit le matin dans sa résidence, il brave la pluie tropicale pour monter à Longwood House. Alors que la pendule sonne 10 heures, Lowe est accueilli par l'officier Gourgaud qui va prévenir son maître et revient penaud. Non, Sa Majesté ne recevra pas le général Lowe. Il est souffrant. Il faudra revenir demain. Napoléon n'est pas malade. Il a refusé de recevoir le nouveau gouverneur, son geôlier, parce qu'il n'a pas respecté le protocole. On annonce sa visite à l'avance quand on vient voir Napoléon. Et surtout, on ne l'appelle pas général, il est empereur. Même en exil au bout du monde, c'est lui qui commande. Et le gouverneur Lowe n'a qu'à bien se tenir s'il ne veut pas rester à la porte demain encore. Le lendemain des présentations ratées, le 17 avril 1816, Hudson Lowe remonte à Longwood. Cette fois, il est reçu par Napoléon, mais l'entretien ne va pas se passer comme prévu. Pour découvrir la suite de l'histoire de Napoléon, rendez-vous dans l'épisode 2, Une longue agonie.